Pour vous détendre, vous informer, vous amuser, rire, pour écouter votre émission préférée, brassez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que vous soyez, www.machinage.com. Machinage.
Bonne façon, madame, monsieur, de démarrer l'émission de ce soir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce voyage dominical combien passionnant à travers les mots du village. Nous sommes le dimanche 1er octobre 2017, c'est la première édition de Livre Neuf pour ce mois d'octobre. À la technique, comme d'habitude, l'infatigable William Joseph, et puis la présentation, c'est le milieu d'un centre de poussière. Mes deux collègues, les Berchard et Mille Pierre, ne supportent pas tout, ne peuvent pas être là ce soir. Donc, je les salue. Ils écoutent les Berchard, et puis Mille, qui est quand même là. Elle est juste à côté, dans le studio d'à côté, mais elle ne va pas pouvoir prendre la parole, faute de malaise. Mais je suis tout de même très heureux du fait que mes deux invités sont là, ils sont arrivés bien avant moi. François et Jimmy Fetchot, qui sont directeurs d'école, philosophes, anciens étudiants de l'école normale supérieure, qui ont chacun un master en philosophie. Et ils dirigent chacun une école, c'est une école, le Petit Soleil, l'école pour les enfants de primaire, donc de la première année jusqu'à la sixième année fondamentale. Et puis, Ligand François, qui lui est directeur général adjoint de l'institution éducative Notre-Dame. Située sur la route de Tabar, c'est une école primaire et secondaire mixte. Voilà, donc une école qui, cette année, a pris sa première classe et sa deuxième, en fait, sa deuxième classe du secondaire, donc le secondaire 2. Alors, pas de chronique ce soir, c'est une émission vraiment spéciale. Les Bébert et ne sont pas là. Et donc, c'est dommage, les fidèles amants de la rubrique des livres de la semaine, de la chronique de Bébert Charles, auront rendez-vous dimanche prochain pour écouter. Et ces deux voix qui, tous les dimanches, apportent une touche nouvelle, une nouveauté à Livre Neuf. Alors, on va parler aujourd'hui toujours au livre, puisque Livre Neuf, c'est une émission qui est conçue autour du livre et de la lecture. Mais on ne va pas parler d'un livre en particulier, on va parler de préférence de la rentrée scolaire. Donc, la rentrée scolaire, le livre, la lecture, la place du livre à l'école. Vous savez que le lundi 4 septembre, ça a marqué la rentrée, je vais dire, entre parenthèses, officielle, pour ne pas dire officieuse. L'école en Haïti, donc une entreprise qui a été faite sur fond d'incertitude et aussi de désespoir, disons-le, puisque vous savez, la situation difficile de ce pays qui ne cesse de s'aggraver au jour le jour, donc la raison fondamentale ayant poussé beaucoup de parents à garder chez eux les enfants. Ils n'ont pas eu les moyens de les envoyer à l'école le 4 septembre. Il y a eu qui ont attendu le 11, 18 et 25 au cours du mois d'octobre. Hein? Et puis, il y a eu aussi. Et un autre élément qui a rendu impossible la rentrée, c'est que la généralité des bâtiments qui abritaient les écoles n'était pas prête. Il fallait donner une nouvelle touche, faire des préparatifs, tout ça. Et la direction d'école, elle a vu la négligence difficile, n'avait pas eu vraiment beaucoup de moyens pour se mettre prêt à temps. Donc voilà, autant de facteurs, il y a un ralenti de la rentrée qui fait que la rentrée s'est faite au fur et à mesure, c'est-à-dire une rentrée continue, hein, qui nous permet de Jimmy Pétiot et Gary François, qui sont là, juste en face de moi, pour en parler. Donc on va parler livre, école, la lecture, le sens de l'école aujourd'hui. Bonsoir, messieurs, bonsoir Jimmy Pétiot.
Et bonsoir petit frère, c'est toujours l'honneur pour moi d'être ici donc à cette émission donc pour parler de livres et surtout pour parler de politique du livre à l'école. Et je pense que vous avez essayé de toucher du droit, donc de grands problèmes. Il faut parler aussi des bouleversements. Il y a beaucoup cette année, ce serait une année difficile avec des bouleversements politiques à mon avis. Donc c'est graduellement, on a eu la rentrée. Mais pour nous autres, le 4 septembre, nous avons eu une belle rentrée avec des clowns, des cracheurs de feu, des marionnettes, ça a été extraordinaire, les élèves ont aimé, mais c'est toujours avec la mort dans l'âme que j'insiste qu'il y a quand même des enfants qui ne répondent pas à l'appel, puisqu'il faut payer, il faut dépenser pour avoir le matériel, la subvention des livres qui tardaient, donc tout ça, donc a permis donc, à certains d'être absents.
Bonsoir, Eugène,
bonsoir. Bonsoir, petit frère, bonsoir, mon camarade, mon ami, Victor. Merci. Donc, je profite de ce micro pour saluer les deux responsables fondateurs de l'institution éducative Notre-Dame, à savoir le Réveil Père Gracia et Madame Delta. Donc, merci, petit frère, merci de m'avoir invité à cette émission du dimanche, 1er octobre 2017. Merci beaucoup. Donc, les autres, comme vient de le mentionner mon camarade, ami et philosophe, c'est ça de lui. Donc, pour nous autres, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de particularité à ce qui a trait à la ouverture des classes, c'est toujours le même problème. Donc, il y a une forme d'universalité des problèmes sociaux et économiques. Donc, et ça, avec beaucoup de douleur, mais quand même, Notre-Dame. Donc, nous avons eu quand même une très bonne ouverture de classe et surtout cette année, nous avons commencé la ouverture de classe dès le mois de juillet pour donner aux enfants un mois de mise à niveau. Un mois de mise à niveau, c'était juste tous les enfants étaient là, c'est pas une entrée officielle, mais une entrée particulière pour une classe. En fait, une entrée particulière pour une classe de CP, étant donné que nous étions à notre première participation, première expérience de l'ouverture d'une classe de CP. Donc, on a dû commencer l'année scolaire dès le mois d'août.
Alors, et M. François, donc, depuis le mois d'août, donc, vous avez fait une entrée spéciale. Donc, c'est très bien donc, pour mettre les enfants en train, à niveau.
Une sorte de mise à niveau, de mise en train.
Alors, c'est très bien. Et donc, la rentrée est effective chez vous maintenant. Et ce sont les cours qui se donnent, les activités, je vais dire, scolaires, parascolaires. Donc, tout fonctionne dans la normale. En fait, dans la et puis normale. Pas dans la normale, dans la normale. Normalement.
Et il faut dire que depuis le mois d'août aussi, nous avons préparé cette rentrée avec des suivis, des préparations, surtout des séminaires. Et je profite pour remercier le professeur Innocent et Servien, qui est docteur en mathématiques et normalien de son état. Et il nous a gratifié d'une formation en logique et géométrie. Ça a été vraiment quelque chose de bien pour les professeurs. Et je remercie également notre ami Bellefleur, qui est maître en pédagogie critique, qui a partagé aussi avec les professeurs donc tout son savoir sur critique, sur de façon générale, sur que c'est que l'école. Donc, nous autres, il faut dire qu'en dépit des problèmes financiers, donc, nous avons anticipé certains problèmes et certains parents, nous avons dit à certains parents qu'il faut quand même envoyer les enfants, des fois avec des uniformes usés. Donc, il faut les envoyer, c'était important pour nous, le nombre de jours de classe.
Alors, donc la rentrée s'est faite de façon normale, et à vous entendre et à vous écouter parler. Donc, comme je le dis tout à l'heure, donc, il y a eu tout de même des incidents politiques dans le pays. Est-ce qu'en dépit de tout cela, et vous avez continué à recevoir les enfants, donc est-ce que ça n'a pas eu des incidents sur le fonctionnement de l'école?
Je crois que non, l'école est très bien située. Et les parents et les professeurs sont habitués que l'école, nous avons le principe de la régularité. Donc c'est chaque jour l'école au petit soleil. Donc les enfants sont toujours là, mis à part la grande grève. Donc je crois que même quand il y a manifestation, nous sommes toujours là. Et ce qu'il faut dire à l'école aussi, il y a un élément qui est motivant à l'école, c'est l'élément livre.
Mm-hmm.
Donc, quand je distribue des livres en salle de classe, en deuxième année, en troisième année, je vois que les enfants sont beaucoup plus contents de recevoir des livres de lecture que des livres classiques pour étudier. Donc, chaque matin, il y a un conte, chaque matin, il y a une histoire. Les enfants, donc, peuvent venir à l'école pour entendre des petites histoires. Et dans les salles de classe aussi, les professeurs ont des livres de contes qu'il faut chaque jour réserver un petit temps pour raconter des histoires. Je crois que les enfants aiment ça. Donc, c'est peut-être l'un des éléments motivants.
On va en parler tout à l'heure. Alors,
oui, déjà, je profite de l'occasion aussi pour remercier les parents. Moi-même, ce que j'ai pu remarquer au cours de la réouverture des classes cette année scolaire 2017-2018, j'ai pu observer une sorte d'enthousiasme chez les parents en particulier. En ce sens, je félicite tous les parents de l'Institut d'éducation Notre-Dame. Donc, qui sont des parents très avisés et très motivés. Donc, les parents ont fait tout le sacrifice pour envoyer les enfants à l'école. Donc, c'est la raison pour laquelle, à l'Institut d'éducation Notre-Dame, nous voulons dire que nous avons eu une rentrée scolaire réussie. Réussie à 100%. Et bravo, chapeau à tous les parents de l'Institut d'éducation Notre-Dame qui ont consenti beaucoup de sacrifices, d'énormes sacrifices. Des sacrifices bien inimaginables.
Une question un peu personnelle avant de parler du livre. Est-ce que vous avez un effectif de combien, par exemple?
Moi, nous avons 250 élèves.
Donc, c'est
pré-scolaire au primaire.
Bon, à l'Institut du Sacré Notre-Dame, du kindergarten jusqu'au niveau.
Secondaire
2, nous avons un effectif de 413 élèves.
413,
évidemment. Ouais. Oui, c'est 413.
Alors, c'est mieux.
Évidemment, oui.
Oui. Alors, maintenant, parlons, vous avez anticipé un peu tout à l'heure, parlons maintenant du livre. On va parler du livre, mais il y a une question qui me vient à l'esprit maintenant, et je vous la pose. Voilà, je pense que ça fait déjà un bon bout de temps depuis que vous êtes dans le secteur éducatif, et que vous avez travaillé un peu, ou bien pas d'un certain temps, comme professeur, et avant de devenir directeur d'école, parce que je vous connais quand même. Donc, on a eu un parcours similaire, et nous autres, pour avoir été tous les trois à l'école normale supérieure, faire des études en philosophie et en lettres. Donc, maintenant, et à partir de cette expérience que vous avez eue, à la fois comme professeur et comme directeur d'école, et par rapport à ce que, à la situation du pays qui se passe de nos jours, vous voyez, la dégradation graduelle et de la vie en Haïti sur tous les plans, les politiques, médias et sociaux, etc. Quel est, d'après vous, aujourd'hui, le sens de l'école en Haïti, Est-ce que ça a encore un sens, l'école? Envoyer un enfant à l'école, être directeur d'école.
À mon sens, l'école a eu et a encore et aura toujours sa place dans une société qui se projette. Donc, ce qu'il faut voir, quand on parle de cette dégradation de la société haïtienne, de voir tous les problèmes sociaux, il faut voir aussi qu'il y a une certaine résistance du peuple haïtien, c'est-à-dire la volonté de vivre, la volonté d'exister. Et cette existence est très manquante dans l'espace scolaire. Donc, par exemple, si l'on considère les sacrifices consentis par les parents, les sacrifices aussi consentis par les élèves pour venir à l'école, ça nous donne déjà donc, cette résistance, ce noyau de résistance qui dit non. Non à la défaillance de la société haïtienne, non au désespoir. Donc, moi-même, ce que je peux dire dans mes expériences, dans mes 13 années d'expérience, non seulement comme enseignant de lettres de philosophie, comme responsable d'école, je peux dire que l'école a été toujours un espace de résistance au désespoir que nous impose la politique et l'économie haïtienne.
Vous voulez pitié.
Voilà.
Ça a encore un sens?
Oui. Moi, je crois, je commence à enseigner en 96 et j'ai eu une chance énorme d'être dans la cour des grands. J'ai vu faire un grand directeur d'Amir François, parce que j'ai été au Collège de l'Étoile, et puis ensuite, j'ai été par la suite enseignant à cet même établissement. Donc, pour moi, lui, il portait un projet citoyen, donc en fondant le Collège de l'Étoile. Je pense que nous plaçons donc le petit soleil sur cette voie. Donc, nous disons toujours que c'est une école républicaine. Donc, le sens, qu'est-ce que l'école doit apporter? Donc, certaines écoles voient des valeurs, je dirais des valeurs égoïstes, des valeurs individualistes. Nous autres, nous essayons d'assumer une égalité à l'école. C'est-à-dire que même quand les enfants viennent de milieux défavorisés, nous voulons offrir une éducation de qualité. Et pour cette raison, nous essayons d'enrichir le curriculum de l'école avec la natation, avec la musique, avec le théâtre, avec la danse. Et surtout, et quand moi je parle à l'école, je dis que je suis possédé, je suis habité par trois grands, Jacques Dessalines, Jacques Stéphane Alexis, par Jacques Roumain. Je pense que l'école nous dépasse, donc nous travaillons pour la République. L'école, je pense que c'est un idéal. En même temps que l'école doit renouveler, nous devons faire attention. Il y a un côté dangereux aussi de l'école. Qu'est-ce qu'il faut renouveler dans la société? Quelles sont les valeurs? Est-ce que ce sont les valeurs individualistes? Ou c'est toi qui dois avoir la moyenne d'œuvre? C'est toi qui dois réussir? Ce sont les autres. Donc, il y a un côté maître d'âme. Donc, je pense que là, l'école doit avoir des incidences sur le vivre ensemble. Donc, l'école déjà crée des liens, même à l'intérieur. Malheureusement, à l'école, nous ne recevons pas des enfants venant de familles riches. Et pour cette raison, nous pensons que l'école, de manière générale, l'État doit penser l'école doit être républicaine, c'est-à-dire que tous les petits haïtiens doivent avoir ce droit-là, donc avec des valeurs sûres, des valeurs d'égalité, de générosité, de solidarité, pour vraiment créer l'avenir. Parce qu'il y a un problème dans la société, on voit que maintenant, des gens qui réussissent dans la société, ce n'est pas des gens qui priorisent l'école, les diplômes, ce n'est pas ça, au contraire. Quand on est trop attaché à l'école, diplôme, donc là, c'est la majorité. Donc je crois que l'école a toujours son sens. Il n'y a pas que l'argent. Il y a un parent qui a fait cette remarque. Nous devons penser à montrer aux enfants à créer des millions. J'ai dit que oui, c'est vrai, mais à quoi sert de créer des millions si on perd son âme? Quand j'ai dit perd son âme, dans le sens des valeurs, de solidarité, de générosité, si l'enfant maintenant devient détaché de son milieu, ne voit plus de la même manière ses enfants. Donc, ses amis qui habitent dans les ghettos, dans les quartiers, donc ils voient mal son pays, qui a honte de sa personne, pourquoi former des enfants de cette manière-là? Je pense que l'école a tout son sens. Notre vivre ensemble dépend de l'école, à mon avis.
Et j'ajoute au propos de Pétiot. Donc, par exemple, nous-mêmes, au niveau de l'Institut éducatif de Notre-Dame, donc, nous voulons que l'école soit un espace de construction de l'identité collective. Donc, où on partage des valeurs communes comme le patriotisme, le sens de la solidarité. Donc, il y a une absence totale de la crise chez l'Haïtien d'aujourd'hui. il y a une absence totale du respect de l'autre, de la considération de l'autre. Donc, nous pensons que l'école doit être l'espace de socialisation qui construit l'identité du futur haïtien d'une autre façon, pas de la même manière que l'haïtien est aujourd'hui. Donc, on a un problème de mal de l'être en Haïti, d'où l'école. Et c'est un espace qui construit des citoyens détachés du pays, des citoyens qui haïssent, qui détestent leur pays. Donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des écoles qui donnent le ton. Qui donnent le ton à des dirigeants, à des espaces dominants. Quand je parle des espaces dominants, je parle de l'espace politique, de l'espace économique qui envahissent tous les espaces sociaux parce qu'ils ont de l'argent, ils sont pauvres d'argent. Mais il faut qu'il y ait un noyau de résistance. Et je pense que l'école doit être un noyau de résistance qui propose une autre alternative, une alternative neuve.
Bon, espérons-le, et que l'école devienne ce réseau de résistance. Mais je me demande si l'école n'a pas les, si on n'a pas les moyens pour avoir une bonne école, une école qui prône les valeurs républicaines, citoyennes. Possible de faire de l'école ce réseau de résistance, ce lieu de résistance. Bon, je ne crois pas. Alors, vous avez soulevé, et c'est Jimmy Pitchup qui en a parlé, et je crois que M. François en a fait allusion dans son exposé tout à l'heure, l'éducation de qualité. Comment est-ce qu'on peut avoir une éducation de qualité avec des écoles qui fonctionne dans les pays sans livre? Quelle sera la place du livre dans et la construction, le rêve de cette éducation de qualité?
C'est bon sujet-là, c'est une très bonne interrogation parce qu'il y a, je connais d'autres enfants qui me disent « Ah, je ne lis pas, non, je ne lis plus parce que je n'ai plus le temps puisqu'il y a l'école, je n'ai pas le temps de lire. » Oui, parce qu'au contraire, c'est l'école même. L'école doit être. Je pense qu'il y a un problème. Parce que de plus en plus, les écoles ne sont plus des lieux de savoir. C'est ça le problème. Donc ce sont les parents.
Elles sont quoi?
C'est des choix. C'est
des boutiques.
Des boutiques. Il faut le dire. Il faut le dire. Parce que moi, je pense que.
Des espaces de. C'est pour le rabotage.
Il faut avoir une passion. Parce que moi-même, même quand j'étais élève, donc, on pourrait dire que j'allais devenir professeur, parce que j'avais ce souci-là. Et j'ai un ancien et professeur prêtre qui m'a dit, mais non, il y a une relation entre la prêtrise et le fait d'être enseignant. Donc, c'est le fait de vouloir servir les autres.
Mm-hmm.
Donc, je crois que là, c'est un problème. On ne peut pas faire l'école, même sous un arbre. Si on veut faire l'école, il faut qu'il y ait des livres.
C'est
pour cette raison, nous avons commencé, quand nous avons commencé en 2001, nous avons commencé avec les livres. Nous avons commencé avec une petite bibliothèque, nous avons commencé avec les livres. Nous pensons que le livre, donc c'est l'élément central même à l'école. C'est pour cette raison, à tous les niveaux, il y a les enseignants, le club de lecture, les enseignants, il y a les professeurs en salle de classe, les élèves en salle de classe, il y a doublement, des livres doublement, hein, dans le sens du doublement. Donc grâce à cette collaboration de l'édition, les littératures, nous avons acheté des livres donc, pour toutes les classes, donc la présentation de certains auteurs. Je crois qu'il y a un parent qui m'a dit, c'était assez intéressant, vous devez le savoir, quand on a vu le style de Léopold Sédar Senghor, il y a un parent qui a mis la main à la tête, il était vraiment étonné, mais en primaire, comment ça, un enfant Léopold Sédar Senghor? Mais quand le parent commence à lire le livre, il a vu qu'effectivement, ça a été un livre conçu pour l'enfant. Et je crois qu'il y a un monsieur, que je ne vais pas citer le nom, qui est responsable d'une autre école, c'est une école très bien côté de la capitale. Il a dit, c'est intéressant, mais le petit soleil, c'est véritablement intéressant. Donc déjà, on a pensé, et je crois que les élèves ont dévoré, Charles Maïpéla, ils ont dévoré les livres. Et nous autres, nous avons mis aussi des livres, je dirais, assez singuliers pour trouver le plaisir duquel j'ai cherché des livres intéressants, de donner à chaque classe et puis de faire une rotation chaque vendredi, une rotation des livres. Donc les enfants interviennent à chaque fois. il n'y a pas. Donc, l'école, je crois que le livre, c'est un moyen pour nous. C'est pas une très belle phrase, vous allez lire, c'est une ouverture. Donc, l'école nous donne cette possibilité de voir ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Chine, de voyager, de questionner l'histoire, de questionner les mathématiques. Donc, on ne peut pas. Il n'y a pas d'école sans livre.
Il n'y a pas d'apprentissage
sans livre.
Moi, je ne comprends pas comment que des écoles puissent continuer à exister et dans les pays, notamment et à Port-au-Prince, dans la capitale, et au vu et au su de ceux qui nous dirigent, de ceux qui font partie de l'éducation, c'est des rois dignitaires.
Mais de l'État aussi, en comportant malheureusement.
Les écoles. Et les écoles nationales.
Moi-même, en ce sens, je commence et mon intervention par cette phrase. Donc, lire, c'est pas courir le monde dans le temps et dans l'espace. Donc, vous voyez, donc c'est déjà l'acte de lire et permet à l'enfant d'avoir une ouverture sur le monde, mais non seulement sur le monde, mais à travers le temps, à travers l'espace. Et en ce sens, je profite de ce micro une fois de plus pour féliciter les fondateurs de l'école que je dirige avec eux, qui ont consenti près de 30% du budget de cette année à la politique de lecture et de bibliothèque. En ce sens, donc, ils ont fait un effort considérable. Ils ont essayé d'avoir des partenariats avec
donc, si je comprends bien, il y a 30%
du budget de l'école qui est consacré, alloué à la politique du livre, qui implique la question du livre, la bibliothèque, la formation des enseignants, tout ça. Donc je crois que nous, en ce sens,
je pense que c'est un bon pas. J'aurais bien aimé que les responsables de la DNL, de la Direction nationale du livre, puissent nous dire eux combien dans leur budget est consacré à la
livrerie et une école. Bon, une école qui se donne pour mission, pour objectif, de donner aux enfants un enseignement de qualité, un enseignement de qualité qui implique non seulement l'investissement au niveau de la formation des cadres, pas seulement des cadres, mais aussi des enseignants, mais aussi dans l'achat, dans l'acquisition des ouvrages, dans l'acquisition de tout le matériel didactique et pédagogique. Donc c'est une école qui veut au moins donner une alternative à l'éducation, à ce que font les autres au niveau de l'ministère.
Est-ce que vous savez, en fait, bon, je ne sais pas, on pourrait se demander, par exemple, à entendre parler Louis-Diane, combien dans le budget du ministère de l'Éducation nationale est alloué à la formation et des maîtres et à la mise en place de bibliothèques dans les écoles publiques, par exemple.
De même chose, jusqu'à maintenant, au niveau du ministère, il y a une sorte d'opacité, en termes d'investissement dans les systèmes éducatifs, quel que soit au niveau de la politique du livre, de la formation des maîtres, l'installation des espaces de travail, tels que de laboratoires d'informatique, de laboratoires de sciences expérimentales. Donc, il y a une opacité totale. Donc, par exemple, moi-même, par exemple, au niveau de l'institution éducative Notre-Dame, nous avons investi 30% de notre budget à la formation des enseignants, au renforcement de notre bibliothèque, de notre politique du livre, mais aussi nous avons aussi consacré beaucoup de dépenses en ce qui a fait à d'autres infrastructures scolaires, telles que nous avons institué un laboratoire de sciences expérimentales, un laboratoire ultramoderne, c'est-à-dire où les élèves désormais, les élèves n'apprennent plus la chimie de la salle de classe. Donc, la théorie doit être expérimentée au laboratoire. Est-ce que vous voyez? Non, nous avons un laboratoire informatique, vous voyez, mini d'Internet. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes en train de travailler sur un projet de mettre en place un laboratoire de mathématiques. Parce que je crois avoir eu une discussion avec un directeur d'école avec qui j'ai mentionné la notion de laboratoire de mathématiques. Mais le directeur d'école a dit, mais comment
comment peut-on parler de laboratoire de mathématiques? Est-ce que vous voyez?
Parce que les mathématiques
imaginables. Est-ce que vous voyez? Donc, oui, bien sûr. Donc, nous sommes en train de travailler sur des projets tels que un laboratoire de mathématiques où les élèves vont expérimenter des notions de mathématiques apprises en salle de classe dans un laboratoire de mathématiques. Et en ce sens, et les responsables fondateurs, à savoir le révérend père Gracia et Madame Delica, ils nous accompagnent dans ce projet et ils font tout ce qui est de leur possible pour matérialiser, pour concrétiser ce projet de laboratoire de mathématiques.
Très bien. Alors, et à côté des activités scolaires, vous avez les cours et tout ça, vous avez parlé et des activités. De ce que vous faites comme activité autour du livre, Jimmy Pétiot, vous avez dit tous les matins, il y a un conte qui est raconté aux enfants le vendredi, il y a échange. Et parlez-nous un peu de cette ambiance, vous voyez, des activités autour du livre.
Voilà, je pense que c'est une politique. Nous avons une politique du livre qui concerne les élèves, les enseignants, et également les étudiants des cours, aussi les professeurs. Parce que de plus en plus, nous donnons des conférences sur le livre. Nous invitons des auteurs à venir et à l'école même. Pour l'année dernière, ça a été Pierre-Michel Chéry qui était venu à l'école. Cette année, nous passons aussi du jeu en évitant les enseignants, mais aussi, nous pouvons éviter aussi votre édition. À l'école avec les enfants. Ce que nous allons essayer de réaliser cette année, ce n'est pas seulement la lecture, mais nous allons essayer de voir comment nous pouvons faire de la création aussi, donc travailler avec les élèves en 5e et 6e année pour d'éventuelles publications en créole et en français.
Donc, pour qu'ils écrivent des contes, des nouvelles, donc de toute histoire. C'est ça?
Oui. Et je voulais signaler quelque chose tout à l'heure concernant l'école de manière générale, le secondaire. Vous devez savoir qu'il y a un problème maintenant au niveau du secondaire, ce qu'on appelle le nouveau secondaire. Puisque moi-même, je suis également professeur au lycée, donc j'entre dans les salles de classe sans savoir quoi faire.
Pas de programme, c'est-à-dire.
On n'a pas de programme. Parce qu'on me dit que je ne suis plus dans le traditionnel. Je suis en nouveau secondaire. Mais je n'ai jamais vu le programme du nouveau secondaire. Bien entendu, j'ai une idée, puisque dans le temps, j'ai travaillé avec le feu père Max Dominique. Le projet
qui a été
montré. Sur le projet. Mais quand je fais la demande à la direction du lycée, jusqu'à date, nous n'avons pas ce. On me dit que c'est plus la littérature, maintenant c'est le français qui doit être enseigné à ça. Je dis oui, le français, quelle unité dans le français? Est-ce que c'est la grammaire? Est-ce que c'est le chalut? Est-ce que c'est la lutte? Quoi? Jusqu'à date, j'ai vu le programme. Donc ça, je pense que c'est un problème assez sérieux. Donc nous sommes dans la demande totale. Alors au moins, on pouvait être dans le traditionnel. Je savais qu'on allait faire la dissertation, l'analyse. Et on savait quoi faire.
Peut-être qu'il faudrait en parler à M. François. Lui, il est dans le nouveau secondaire.
Évidemment.
il a les programmes.
Bon, moi-même
personnellement, ce que je fais toujours dans... Moi-même, j'ai mis fiches de ce qu'ils font, les irresponsables, les crapules
qui sont responsables, malheureusement, et dans le système éducatif, est dominé et est contrôlé par des crapules, malheureusement. Je suis bien obligé de le dire, malheureusement. Nous autres, moi-même, personnellement, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de combiner ce que moi-même j'ai comme expérience personnelle et avec ce que les élèves, les apprenants eux-mêmes ont comme expérience personnelle. Parce que l'enseignement est un acte d'interaction entre l'apprenant et l'enseignant. Donc nous avons essayé de faire à partir des idées, à partir de ce que nous avons comme bagage intellectuel, comme expérience. Donc nous avons essayé de faire quelque chose qui dépasse même ce que proposent les crapules qui sont responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Moi-même, ce que je dis toujours à des camarades, des responsables d'école, comme mon ami camarade, et je dis que deux camarades qui sont concernés, qui ont une conscience de vouloir apporter quelque chose d'important, quelque chose d'utile à notre société, c'est de se fier de ce que font ces crapules, ces irresponsables qui n'ont rien à voir avec l'éducation et les intérêts de la nation. Il faut, avec conscience, faire son travail avec son Dieu.
Mais vous avez les programmes du niveau secondaire.
Nous avons des bagues vides.
Oui, pardon, ce que nous avons essayé de faire, nous avons vu le programme, soi-disant le programme, un programme qui n'a rien à voir. Écoutez, Williamson, l'école est un espace de construction de l'identité nationale.
Non, on est d'accord. C'est un programme
qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec le pays. Bon, il faut le mentionner. Parce que si on regarde, on analyse le programme du nouveau secondaire, ce qui a trait au cours de soi-disant français, moi je ne veux pas de français, mais quelle limite que je dois avoir dans ce cours de français, est-ce que vous voyez, que je dois avoir dans ce cours de français, parce qu'il y a un conflit.
Par exemple, la littérature, moi, je plaide pour l'entrée de la magnifique littérature créole.
Ouais,
par exemple, je cite Kafka, je cite Baudelaire, je cite
Baudelaire,
c'est joli, mais malheureusement, c'est pas dans le
programme. Dans le programme, c'est tout, il y a un rompre avec cette tradition de littérature des morts, et puis il y a la littérature des vivants,
la littérature contemporaine.
Il n'y a pas aucun sens d'avoir tant d'écrivains qui écrivent, qui produisent dans un magnifique,
qui sont des
écrivains, ne sont pas inscrits dans aucun programme du ministère de l'Éducation. C'est malheureux, c'est méchant.
Je ne pense pas que c'est parce que
il faut proposer une alternative à ce que sont les créatures qui sont au ministère de l'Éducation. Il faut proposer une alternative. Toujours, on va toujours se dépasser, on va toujours essayer de conduire ce malheur, ce problème à savoir d'examen officiel. Donc, on fait notre travail et on va mettre plus loin que ce que proposent les créatures qui sont au ministère de l'Éducation nationale.
Alors, oui, parce que j'allais dire qu'il y a quand même les examens.
On va plus loin que
ce que propose et c'est rapide que ce n'est pas le ministère. Alors, Jimmy Pétion, tu es de même avis que...
Bon, c'est parce qu'il faut les bousculer. Et j'aime dire que l'éducation n'est pas seulement l'affaire des spécialistes, des professionnels. Ça concerne toute la société.
Mm-hmm.
Même la personne qui est analphabète aussi est concernée.
Et elle a son mot.
Oui, elle a son mot. Je me souviens de ça. Quand on avait commencé l'école en 2001, on avait proposé à une dame d'envoyer son enfant à l'école gratuitement. Vous savez la question que la dame m'a posée?
Laquelle?
Parce que petit moyen à pas apprendre le français.
Alors, pour elle,
c'est fondamental, c'est important, hein. Là, je crois que
ça, c'est la langue.
Ah oui, ça, c'est. Je pense qu'avant même d'apprendre une langue à une communauté, à un enfant, il faut voir, hein, quelle idéologie et linguistique, hein, Gustave l'a dit. Parce qu'il faut voir dans la tête des gens, c'est pour cette raison moi-même, j'ai dit à mes élèves, l'État me paye pour parler français en salle de classe, je ne vais pas parler français parce que le français, c'est la langue des civilisés. Non, pas du tout. Le français nous donne un accès vraiment à une certaine forme de civilisation, tout comme l'école. C'est parce que vos ouvrages sont en français, mathématiques, physique, chimie. Quand vous proposez en mathématiques, c'est pas seulement les maths, c'est mathématiques français, chimie français. Dans le jour de la terre, voilà, tout est en français. Si on change le système créole, je serais bien d'accord de parler français. Je ne veux pas
de parler créole,
oui, je parle créole. C'est de la démagogie. Quand je viens en salle de classe, je dis créole, et vous êtes, on va vous proposer en français. Deuxièmement, parce qu'en salle de classe, on essaie. Puisque on n'est pas, c'est pas notre langue maternelle, c'est une langue seconde. Donc, vous voyez les milieux.
La France est même une langue étrangère. Qu'est-ce que vous faites des enfants défavorisés qui viennent à l'école et c'est seulement à l'école qu'ils ont contact, leur premier contact avec cette langue qui est à l'école.
Mais je pense qu'il y a un degré de timidité par rapport à la langue. Ce n'est pas une langue étrangère. Parce que même quand l'enfant ne peut pas répondre, mais. Si par exemple, moi, je m'adresse aux enfants, j'ai dit à l'enfant, vous êtes une femme. Je dis, ça va peut-être dire, l'enfant ne sera pas. Parce que la langue est une langue étrangère. Ou bien, si je dis à l'enfant, tout pas comme ça, la langue ne sera pas. Mais si je dis à l'enfant, bonjour, comment ça va? Il va comprendre.
Mais maintenant,
il dit, là, il ne peut pas
répondre. C'est une L2, non, L2, donc. Au mieux de dire que c'est une L2, c'est-à-dire une seconde.
Oui. Je crois que c'est à dire aussi, nous devons l'accepter, puisque quelqu'un, le fondateur de la patrie des familles, il a crié L au français, mais il a crié cette L en français. Dieu qui est là, Dieu est de faiblesse. Il nous crée la poésie en français quand même. Et j'aime bien cette phrase de Catherine Yassine qui dit que le français, considère l'Écriture comme son butin de guerre. Même dans le cas du massacre, ça fait de parler, l'interlocuteur haïtien doit parler sans complète, avec des symptômes de l'autre dans le sens pour maîtriser le français.
Je pense à nous, c'est un patrimoine universel. Donc, aucune nation n'a le droit de s'approprier d'une langue, de dire que la langue est la sienne. Je crois qu'une langue est avant tout un patrimoine universel et tout peuple, à travers le monde, à travers le temps, a le droit de parler une langue parce que la langue est construite et s'inscrit dans le cadre d'un patrimoine universel.
Et petit frère, ce que je dis, là, c'est par rapport à mes expériences.
C'est ma position.
Voilà, c'est une position.
Le préfet ne peut pas s'approprier de façon exclusive du
conseil. Parce que j'ai fait une expérience avec des enfants qui viennent de milieux défavorisés. Je vois comment à l'école ils arrivent à s'approprier quand ils sont dans le
district.
Ils arrivent à apprendre.
Alors, de quelle langue vous enseignez à l'école?
Moi, j'enseigne le
français. Alors, je ne parle pas du lycée.
À l'école du
général, moi-même j'essaie dans toutes les écoles, quelles que soient les écoles publiques et comme les écoles privées, en français et en créole.
Non, maintenant, et à l'IGN.
Les cours se font dans quelle langue?
Les cours se font en français.
Donc, les cours se font en français et. Écoutez, nous avons à l'IGN une particularité. Laquelle est mon particularité, c'est d'avant. Alors, donc, il y a des cours qui se font en français, mais les cours de langue, vivant, à savoir les cours d'espagnol, les cours d'anglais, se font en anglais et en espagnol. Et il y a une condition inéternale pour que l'enseignant de langue enfin à l'aider. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir enseigner la langue enseignée dans la langue.
Non, il n'y a pas de
problème. Il y a des amis à l'institut. Qui fait ce travail réellement remarquable, qui sont pour enseigner les cours de communication
créole. Oui, d'accord, non. C'est une question de matin.
Il y a des littératures créoles. Il y a des littératures créoles. Dans les écoles, dans les écoles, c'est un projet de programme de cours de littérature haïtienne de création créole. Nous proposons des créations pour la créature haïtienne de création créole. La créature haïtienne de création créole. Et l'année prochaine, donc, ce projet sera constitué un cours de littérature haïtienne de création créole.
Nous sommes à l'école, il y a eu une certaine déjà à la littérature créole à l'école. Déjà, nous avons des articles à l'école.
Alors, merci, donc, William Stéphane. Donc, c'est l'heure de la 3 minutes, c'est la fin du livre 9. Richard est déjà là, donc, on doit lui passer le micro pour ne pas faire d'autres fois. Et pour clore, vraiment pour clore l'émission de ce soir, Simon Pitchot et William François. Vous avez chacun une bibliothèque avec des livres de tout genre accessibles aux enfants.
Oui.
Et aux compagnons.
Oui, c'est ça, les enfants.
Et donc, nous avons une bibliothèque. Nous faisons un travail sur un sujet de bibliothèque. Et nous sommes en pouvoir lié avec des institutions internationales pour nous aider à la consolidation de ce projet de bibliothèque. Mais aussi, ce que nous sommes en train de faire, donc, nous travaillons à deux niveaux. D'abord, donc, et la question de lecture, de l'accès aux livres, et d'abord, les enseignants. Pour lire aussi, parce que on veut, on éprouve la nécessité de lire seulement aux élèves, mais les enseignants aussi doivent lire.
Très bien.
Et, ok, il n'y a pas encore de bibliothèque numérique. Il n'y a pas encore de projet qui sera précisé sur que d'ici l'année prochaine.
Toi aussi, jusqu'à présent, vous êtes toujours dans
les livres papiers. Très bien. Alors, merci Louis François, merci Jimmy et Petit. On aurait pu passer tout. On reviendra à une prochaine émission où vous serez là pour parler de la lecture, vraiment de la lecture, les pratiques de lecture au petit soleil. Et à demain. Je salue ma famille Charles de Pompierre qui sera avec nous pour cette émission. Je vais vous donner de rester à l'écoute et il sera là pour parler des pratiques de lecture. Il y a aussi et Marc-Xavier, et lui aura à faire son passage à cette émission. Merci les amis, merci William.
Merci William. Merci.
Voilà, c'est la fin de Livre Note. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission du même genre. Je vous rappelle que Livre Note est une émission proposée par la Radio Magique 9 en partenariat avec l'association L'Aide et Littérature. Allez, ne zappez pas puisque Richard est déjà là pour vous apporter les beaux parfums souvenirs. Allez, à dimanche prochain. Au revoir.
L'équilibre prend à l'esprit ce que la nourriture est au corps. Marquez votre esprit en écoutant tous les dimanches de 5h à 10h de l'après-midi, Livre 9 sur Magic 9.9 avec Gérard de son petit frère, Mireille Pierre et Gébert Charles. Actualité sur le livre, débat, lecture critique, rencontre avec les auteurs, les amants et tous les professionnels de la chaîne du livre. Livre 9, c'est le livre dans tous les états sur Magic 9. Livre 9, une émission par la radio Magic 9 en partenariat avec l'association L'Aide et Littérature. Allez.
Sur Magic Net, sans connaître, sauf le lundi, pour les vendredis.